Ce soir, je suis en compagnie d'un guerrier ayant pour arme le verbe qu'il maîtrise à la perfection, d'un romancier et essayiste qui va là où la plupart ont peur d'aller, d'un homme très drôle et profond pourtant, d'un puits de savoir dans lequel on ne se noie pas, Stéphane Zagdanski, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là.
Merci à vous, merci de votre invitation. Je suis très impressionné par cette présentation. Là, maintenant, je sois à la hauteur, ça va être très dur.
Vous venez de publier votre dernier roman au Seuil, qui s'appelle « Chaos brûlant ». Et le titre est tiré d'une phrase de Nietzsche. « La civilisation n'est qu'une mince pellicule au-dessus d'un chaos brûlant ». Tout est dit.
C'est l'exergue du livre.
Exactement. Et c'est un roman magistral, démentiel, dérangeant et envoûtant. Et ça traite en partie d'une affaire qui a été très médiatisée.
Oui, quand vous dites en partie une affaire très médiatisée, ça veut dire qu'il faut revenir à cette date-là. Et en été, alors si je me souviens bien, le 26 juillet 2011.
En le voyant, j'ai tourné la tête et j'ai dit « Je suis désolée », mais il s'est jeté sur moi et m'a attrapé la poitrine. « Non, ne t'excuse pas », il m'a dit. J'ai dit « Arrêtez ça, je ne veux pas perdre mon emploi », mais il ne voulait rien entendre. Il n'arrêtait pas de me pousser vers le couloir. J'étais tellement effrayée. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai regardé les informations le lendemain. Il disait que c'était l'homme qui allait être le prochain président de la France. Je me suis dit « Oh mon Dieu !» J'ai pleuré et j'ai pensé « Ils vont me tuer, je vais mourir ».
Ça commence fort.
Ah bah ça commence fort, Nafissatou Diallo. Votre livre s'empare en partie de l'affaire DSK. Alors je vous avoue que c'est la raison pour laquelle j'ai failli pas le lire.
Bah écoutez, ça tombe bien, moi j'ai failli ne pas l'écrire. Parce que c'était pas non plus tellement ma tasse de thé, ce genre de thème.
Alors pourquoi ?
Et en réalité, j'ai été estomaqué par l'effet médiatique de cette affaire. C'est pas tellement la trame de l'affaire elle-même. Là, on entend Nafissatou Diallo, c'était plus d'un mois, un mois et demi après l'affaire, et on voit tout de suite que c'est une très mauvaise comédienne.
Ouais.
Ça veut pas dire qu'elle ment.
Ça veut pas dire du tout qu'elle ment.
J'explique comment une Africaine prend ce genre de choses, qu'est-ce que c'est que raconter une histoire lorsqu'on est une peule comme elle dans le roman. Donc j'explique qu'elle n'a pas du tout les mêmes critères de rapport à la parole et au récit qu'un occidental. Et c'est pour ça qu'en effet, lorsqu'on lui demande de réciter à l'américaine son viol, elle le fait si mal. Mais c'est surtout l'aspect de démence médiatique qui s'est emparé de l'affaire, qui m'a intéressé et qui me semblait être une information extraordinaire sur notre époque et sur ce chaos brûlant qu'à l'époque.
Mais on se souvient tous, Stéphane Zagdanski, vous aussi, Eva Bester, des imprécations très vite d'un Philippe Soler sur tous les plateaux de télé, que vous aimez bien, Philippe Soler.
Bien sûr.
Demandant à tous les écrivains de s'en emparer. Pas tous les écrivains, mais qu'il fallait que l'écriture arrive.
Bien sûr. C'était tout le monde a senti qu'il y avait quelque chose d'extraordinairement mijotant, on va dire, pour regarder la métaphore volcanique, dans cette affaire, dans cette histoire, y compris les rebondissements qui ont eu lieu durant tout l'été 2011. Moi, ça faisait longtemps que je voulais parler de l'argent, de la question de l'économie. N'oublions pas que l'été 2011, c'est aussi un des thèmes de mon roman, c'est l'effondrement de l'économie planétaire. C'est-à-dire qu'on pensait depuis 2008, après la crise des subprimes, que tout allait beaucoup mieux et DSK, lui-même, en tant que patron du FMI, passait son temps à passer de la pommade et à dire « ça y est, c'est la reprise, les Grecs, ces merveilleux Grecs ont voté pour Papandreou, qui est de gauche, donc c'est la preuve qu'ils ont enfin compris qu'il fallait nous écouter, nous, le FMI, et qu'ils allaient rentrer dans le rang, tu parles ?» Et tout se réécroule en 2011 et DSK avec. Donc c'est ça, c'est cette dynamique-là qui m'a intéressé.
Et je comprends, mais il y a plein d'autres en fait, thèmes dans le livre. Et surtout, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. On voit surtout que ce n'est pas l'affaire DSK en vrai qui vous intéresse. C'est un peu une toile de fond. C'est bien plus noble ce dont vous parlez. Je voudrais qu'on rentre tout de suite dans le corps du texte avec votre voix de basse, Alexandre. Est-ce que vous pouvez nous lire le début du roman ? C'est un vrai roman, hein, c'est important de le dire.
Quand Sagdos se présente ainsi, c'est ça ?
Oui, Sagdos se présente.
Je sais, je ne paye pas de mine. Assis en tailleur sur le sol de ma cellule, j'attends qu'on me laisse sortir quand ils s'apercevront que Gonéril m'a dénoncé à tort. J'ai refusé de lui refiler une de mes doses de dope, alors elle m'a joué un de ses sales tours. Ce n'est qu'une question d'heure. Je ne suis pas pressé, j'ai tout mon temps. Ça fait longtemps que je suis passé de l'autre côté du temps. Pas d'avant ni d'après, dans mon cerveau en fusion. Ce ne sera pas la première fois que Gonéril invente à mes dépens une histoire de viol, ou de coup, ou de vol. Sans beaucoup la croire, les flics doivent suivre la procédure. Ils me gardent ici à Harlem le temps d'amener cet exalté à l'hôpital et qu'un gynécologue l'examine avant d'infirmer, comme à chaque fois, ses accusations. Je suis si peu sexuel, comment pourrais-je violenter qui que ce soit ? Ma carcasse malingre, mon cœur atrophié, mon âme calcinée sont expurgés de toute libido. Dès l'enfance, on m'a vidé d'anger, les sentiments dénoyautés, les pulsions étripées par la misère, raclées par le malheur. Non seulement je n'ai jamais violé personne, mais c'est le monde entier qui, jour après jour, pénètre en moi. Mon corps est une caisse de résonance hypersensible, et rien de ce qui émane des autres âmes ne m'est étranger. Appelez-moi Sagdos. Je suis celui qui lit dans vos pensées.
Alors voilà, c'est le narrateur, Sagdos, un junkie rachitique entièrement recouvert d'un tatouage de squelette, qui a ses habitudes en fait au Manhattan Psychiatric Center à New York. Il est fiché comme souffrant de psychose hallucinatoire chronique, mais lui est persuadé de lire dans les pensées, dont celle de DSK. Nous sommes l'été 2011 et Sagdos prend l'habitude de deviser avec d'autres fous très érudits sur la chute de DSK, l'effondrement de l'économie planétaire et l'état du monde dans cet asile de fous. Alors, le style que vous employez, Stéphane Zagdanski, c'est trash, c'est beau, c'est poétique, c'est drôle, c'est graphique, c'est musical, c'est érudit, c'est vertigineux et un peu mystique. Vous êtes un kabbaliste du verbe. Et le vrai sujet, je le disais tout à l'heure, c'est pas l'affaire DSK, mais c'est la démence du monde. C'est une enquête, un roman, un essai économique, philosophique et historique. C'est aussi une tragédie burlesque. Qu'est-ce que ça n'est pas, Stéphane Zagdanski ?
Ça n'est pas le monde. C'est-à-dire, ça n'est pas le spectacle du monde, le spectacle que nous offre le monde. Il suffit tous les soirs, on allume la télé, on regarde les informations et on est outragé, tous autant que nous sommes, par le spectacle du monde. Donc, vous l'avez dit, en effet, c'est un roman sur la parole, sur le verbe.
Sur le verbe.
Et sur la manière dont le verbe est persécuté par le chiffre aujourd'hui. Le chiffre, c'est la finance,
l'argent,
les millions. C'est ce que Elias Canetti appelait, parlant des discours de Hitler, qui passait son temps à parler de millions, les millions d'Allemands, les millions de chars, etc., dans tous ses discours pour galvaniser la population allemande. Elias Canetti parlait de la volupté du nombre à accroissement brusque. Or, aujourd'hui, les millions, les milliards, on n'entend parler que de ça. Millions de dollars, milliards d'euros, millions de... Il y a une sorte d'ivresse du chiffre qui se répand partout, dans tous les médias et dans tous les discours des gens qui nous dominent et qui nous dirigent. Eh bien, voilà, la parole d'un écrivain, elle est censée tenter de faire éclater ça.
Alors, pour faire un bon roman, pour faire une belle œuvre de fiction, même quand on s'en part comme ça, comme Stéphane Zagdanski du réel, il faut une galerie de personnages...
Truculent, puisque...
Bien peaufiné.
Alors, il y a ceux qui sont dans l'affaire DSK, bien sûr. Il y a les politiques et puis il y a aussi mes préférés, mais qui sont tellement attachants. Dans le Manhattan Psychiatric Center, il y a plusieurs fous. Et ça ressemble plutôt à un salon club privé d'un télo omniscient. Ça a l'air très chouette, vous me donnerez l'adresse. On croise Karl Marx, Lucifer, Charles Darwin, Guy Debord, Homer Simpson et Franz Kafka, entre autres. Mais chaque personnage est tellement riche qu'on pourrait faire un roman sur l'un. Enfin, je veux dire, chaque personnage peut être le héros d'un roman séparé.
Oui, ce sont des fous, ce sont des schizophrènes, donc par définition, ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Vous remarquerez le parallèle qu'il y a avec les gens qui nous gouvernent, évidemment. Et, sauf qu'eux se prennent pour des gens bien. C'est-à-dire, il y en a un qui se prend pour Franz Kafka. Et chacun, si vous voulez, peut délivrer un savoir sur un certain aspect de la folie globale.
En ayant repris les doctrines des vrais de Franz
bien
Kafka.
Sûr,
de...
Bien sûr,
c'est très documenté.
Ils sont inspirés. Alors, par exemple, Karl Marx, celui qui se prend pour Karl Marx, qui est l'ami de mon narrateur Sagdos, lui, il a un avis très, très fin sur la finance, sur l'argent, sur l'économie, sur le capitalisme, évidemment, comme Karl Marx. Mais en plus, il est capable de démontrer que les thèses économiques de DSK ne valent rien. Ce que DSK, du point de vue de l'économie, ce n'était pas du tout la réputation qu'il avait et qu'il a encore, c'est un tocard.
Mais c'est vrai que Marx lit DSK,
ouais,
oui.
Il fallait opposer à DSK quelqu'un qui fût en mesure de pulvériser. Il n'y avait que Karl Marx. Bon,
ouais. Il y en a un que vous aimez bien. Alors, parmi les personnages, parce que lui...
C'est mon préféré, c'est Bobby Fischer, un ancien champion du monde d'échecs en 1972, Bobby Fischer, qui pensait que les Juifs étaient satanistes et que le christianisme était un de leurs canulars et un outil de plus pour conquérir le monde. Et qui dit dans votre roman, les Juifs sont partout, ils veulent me manipuler, ils essaient d'entrer en contact avec moi par les plombages de mes dents.
Oui, ce sont des... Parce que, comme vous le dites, c'est très documenté. Ce sont des propos du réel, du vrai Bobby Fischer, qui est un cas tragique. J'avais envie de faire un portrait d'antisémite. dans ce roman-là. Et je voulais faire un portrait qui soit vraiment tragique, c'est-à-dire qui montre à la fois la bêtise immense de l'antisémitisme en soi, en tant qu'idéologie, et la tragédie intime que c'est pour quelqu'un d'être antisémite, qui voit des juifs partout, qui est persécuté en permanence par les juifs. Et il y en a un dans l'histoire, il y en a plusieurs, des juifs. Et je voulais aussi qu'il ait une vraie personnalité. Donc il y en a plusieurs, des antisémites géniaux, si vous voulez. J'aurais pu prendre Voltaire, j'aurais pu prendre Louis-Ferdinand Céline, il y en a quelques-uns comme ça. Mais là, j'en ai trouvé un qui est merveilleux, parce que c'est Bobby Fischer, le vrai Bobby Fischer, le plus grand génie des échecs, qui était non seulement hitlérien, antisémite, qui passait son temps à dire « Hitler, quel grand homme », tout ça c'est vrai, hein, tout ça c'est documenté, et qui se trouvait être juif de père et de mère. Et lorsque l'un de mes personnages lui dit « Mais si on pratiquait ton programme d'extermination des juifs, on y passerait, toi et moi ?» lui dit Kafka. Et Bobby Fischer lui répond « Mais oui, il baisse la tête, il est tout triste, il dit « C'est un coup des juifs si je suis juif.
» Alors, il y a toute cette galerie incroyable de schizos, on l'a vu, mais il y a des personnages qui sont bien réels, d'où mon insistance quand même à dire qu'il s'agit bien d'un film où DSK est une figure centrale, et ça en est vertigineux, et ça balance énormément.
Ça balance à mort, on peut même dire. Bah, Carlita et Chouchou, Georges Bush Junior, les politicards, les médias, les réseaux sociaux, mais personne ne s'en tire vraiment. Hitler, par exemple, bon, j'ai pas beaucoup de sympathie pour lui, mais vous le dépeignez comme une mininette éconduite, maniaco-dépressif à hockey, un laquais dans l'âme. Et sinon, est-ce que quelqu'un a grâce à vos yeux, Stéphane Zagranski ?
Pas l'impression.
Mes personnages, bien sûr, les fous. Je n'aime que les fous, d'une certaine manière. Vous savez, je cite une phrase d'Artaud, du vrai Artaud, parce que c'est aussi un des personnages de mon livre. À la fin, il dit « Dieu est un être étrange qui n'aime que les rebelles et les fous ». Voilà, donc eh bien, je suis comme Artaud, et comme le Dieu qu'il décrit, j'aime les rebelles et les fous.
On va vous faire plaisir à l'instant, en l'écoutant.
Aliénation et magie noire. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide, c'est qu'ils en font.
1946.
Oui, ça c'est prodigieux parce que c'est un des plus grands poètes du XXe siècle, des plus grands écrivains, des plus grands penseurs du XXe siècle et qui a une vie de sacrifice et de torture inouïe, le pauvre Artaud. Mais il est extraordinairement important parce que c'est lui qui permet de comprendre ce que c'est que l'envoûtement universel, qu'est-ce que c'est que l'envoûtement social aujourd'hui. Et l'affaire DSK, c'est un envoûtement crapuleux, comme il disait. Avec le côté médiatique qui envahit tout, qui empoisonne tout. Parce que l'affaire DSK, sans les médias, elle n'existe pas. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a dérapé dans une flaque de sperme. Parce que ça arrive tous les jours. Et puis, j'allais dire à des gens très bien. Non, peut-être pas. Mais enfin, ça arrive très souvent. Et on n'en parle pas comme on en a parlé pour DSK.
C'est vrai,
là, si tous les médias de la planète... Vous savez qu'il y a eu une couverture médiatique plus importante que pour le 11 septembre. C'est fou.
Mais il y a le sexe aussi, le sexe.
Alors il y a le sexe, il y a le pouvoir.
L'aliénation de consommation du sexe aussi qui est devenue vide, entièrement vide.
Alors oui, dans le cas de DSK, ce qui est intéressant, c'est que depuis, on sait tout sur lui. Vous voyez, on sait tout sur sa sexualité. Maintenant, l'affaire Nafissatou Diallo a été suivie par les affaires du Carlton de Lille, etc. Donc on sait à peu près tout sur sa manière de faire ou de ne pas faire l'amour. Ce qu'on peut comprendre très vite... sans faire aucun jugement, c'est que c'est quelqu'un chez qui le sexe est dissocié de la parole. C'est l'inverse de Sade, si vous voulez.
Oui.
Le problème, c'est pas la violence, c'est pas le dynamisme ou l'énergie de la sexualité. C'est le fait que cette sexualité, elle s'accompagne d'une pauvreté verbale, qu'a d'ailleurs cité Nafissatou Diallo dans l'interview que vous disiez tout à l'heure. C'est « suck my dick », suce-moi la queue, voilà, c'est tout ce dont il est capable.
On est avec Stéphane Zagranski pour son livre « Chaos brûlant ». Ce brûlot-là qui vient de sortir au seuil. Et là, ce qui se profile, oh, comme une illustration. C'est un remix d'I Feel Like a Sex Machine par Adwan Malik et Melvin Getup.
1, 2, 3, 4
الهند القديم الناس المزمر ولا تنساش دعوة الوالدين دعوة الخير وانا التبريحة قال لك يا اخويا في خاطر الهند القديم
Nous sommes en bonne compagnie, un peu à l'abri du chaos, avec Stéphane Zagdanski pour son livre « Chaos brûlant ». Deuxième extrait, « Séisme ».
Dans la voiture qui l'emmène de Harlem au New York City Criminal Court, DSK se fait l'effet de vivre un lent cauchemar, un mauvais rêve où il aurait commis une faute de débutant, comme toucher une pièce avant de décider où la déplacer sur l'échiquier. Il a touché de son gros 11e doigt le petit pion noir du Sofitel. Maintenant, il ne peut plus reculer, et le voilà bêtement mis en échec. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était senti flotter ainsi en une interminable chute libre, comme l'Alice de Lewis Carroll. La dernière fois, il avait 10 ans et demi. C'était à Agadir, le 1er mars 1960. La veille, le 29 février à 23h40, la ville s'était effondrée sur elle-même, écroulée dans la nuit d'un rire tellurique de 15 secondes. Agadir laissa apparaître au petit matin les mâchoires édentées et hilares de ses immeubles éventrés. Un tiers de la population était mort. La famille Strauss, le père Gilbert, la mère Jacqueline, la sœur Valérie, le petit frère Marc-Olivier et Dominique, l'aîné, faisait partie des miraculés.
Stéphane Zagdanski, vous parlez de ce séisme d'Agadir le 1er mars 1960, mais ça rend presque DSK sympathique. Mais je pense que ça ne vous dérange pas, en fait, parce que ce n'est pas une attaque contre DSK, ce livre.
Non, non, bien sûr, évidemment. Ça permet de comprendre beaucoup de choses, en tout cas, de ce qu'il allait devenir. Il est, selon moi... tout ce qu'on vient de lire est vrai, hein. C'est-à-dire c'est véritable, ça fait partie de sa biographie, ce ne sont pas des secrets. C'est un rescapé du cataclysme.
Donc il est dans la toute-puissance après ça?
Non, c'est qu'il va passer sa vie à rester un rescapé du cataclysme, c'est-à-dire à organiser ou à se laisser organiser autour de lui des cataclysmes, et tout va s'effondrer sous ses pieds en permanence, ou en tout cas à répétition, plusieurs fois dans sa carrière. On connaît tous les jalons comme ça, il arrive au sommet, il est ministre de l'économie, et à cause d'un problème de corruption, la cassette mairie, et puis après l'affaire Tristan Bannon, et puis après l'affaire Piros Kanagi, et puis après l'affaire Nafissatou Diallo, etc. L'AMNEF, etc. À chaque fois... tout s'écroule et il doit tout reconstruire. Voilà. Il est habité par ça, il est hanté par ça.
Comme un Sisyphe heureux, dites-vous.
Voilà, j'emploie une expression qui vient de Camus, qui est utilisée par les communicants de DSK. C'est qu'en effet, il doit à chaque fois remonter la colline, remonter tout en haut, et à chaque fois tout s'écroule. Mais c'est quelque chose qui à la fois est une malédiction et d'une certaine manière une bénédiction. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas du tout impossible qu'il devienne président de la République dans 5 ans ou un peu plus. Tout peut arriver à cet homme.
C'est vrai, mais et à nous aussi, tout peut nous arriver.
Hélas.
Vous le décrivez aussi comme un Sisyphe libertin et jet-setter dont le credo est « où ça va » et le mantra comportemental « jouir, 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 fuir, fuir, fuir ».
Oui, voilà, « où ça va, c'est sa blague à lui. C'est-à-dire, bon,
mais c'est vrai, ça?
Où ça va, oui, c'est une phrase que ses biographes citent. C'est comme ça, quand ça va mal, il dit où ça va. Et jouir et fuir, en effet, ça c'est moi qui le rajoute. C'est sa maxime, si vous voulez. C'est sa manière à lui de fuir le monde. Il n'en a rien à foutre au fond de l'économie, le FMI, toutes ces choses-là, ça n'intéresse pas. On le sait maintenant, on connaît, on sait qu'au moment même où il faisait des longues péroraisons sur l'économie, qui était d'une imbécilité d'ailleurs crasse, en même temps, il envoyait des petits textos à ses copains en disant « prépare-moi une petite visite dans une boîte de partout à Vienne, viens avec une petite ». Vous voyez, c'était ça. Ça, c'est là qu'est son désir, mais qui est tellement creux et tellement imbécile qu'on a du mal à le croire.
Eva Bester, on reconnaît quand même le côté très provoque de Stéphane Zagdonski.
Bah oui, parce qu'en fait,
qui le poursuit d'ailleurs.
Qui le poursuit trop
provoque. Ou alors qu'il cultive, je sais pas.
Alors provoque n'est pas le mot, parce que je pense que un provocateur, c'est quelqu'un qui titille pour emmerder, pour provoquer, voilà, pour avoir une réaction immédiate, et ça peut être vide. Je pense que Stéphane Zagdonski, vous me dites si je me trompe, vous êtes plutôt quelqu'un qui soulève des polémiques. Vous balancez, vous n'avez pas froid aux yeux. D'ailleurs, si on y était en noir et blanc, je vous dirais que vous êtes un drôle de pistolet. Alors, vous avez, par exemple, consacré un essai à l'antisémitisme de Céline, un autre à l'homosexualité dans la recherche du temps perdu de Proust, et vous avez aussi écrit une virulente diatribe contre le cinéma. Je cite le titre.
Godard s'en souvient.
Ah, s'en souvient très bien. Mais attendez, une grande complicité après cette attaque. La mort dans l'œil, sous-titré, critique du cinéma comme vision, domination, falsification, éradication. Éradication, fascination, manipulation, dévastation, usurpation. Ensuite, parce que c'est pas tout, vous ne vous faites pas que des amis.
Vous aurez remarqué que j'ai un peu travaillé mes allitérations.
Oui, oui, bravo, d'ailleurs je vous félicite. On vous a contacté pour figurer dans le bottin mondain, le Who is Who. Vous avez refusé. Et dans cette lettre, vous écrivez que la seule notice qui vous décrit bien, que vous connaissez et qui est parue, c'est celle-ci. Stéphane Zagdonski est né en 1963 à Paris. Charmant en société, il se révèle dans la solitude de ses livres, intransigeant, irrévérencieux, impertinent, ironique, parfois insultant, souvent drôle. Manifestement, il sait de quoi il parle et il n'attend rien de personne. Stéphane Zagdonski, n'avez-vous pas peur qu'on ait envie de vous gifler ?
Ça m'arrive fréquemment, figurez-vous, qu'on me gifle dans les médias, par exemple, dans les articles qui sont écrits sur mes livres. C'est pas très grave, c'est de bonne guerre, si j'ose dire. Comment dire ? Vous savez, moi, je me sens véritablement outragé par l'état du monde, par l'état des choses, par le malheur des gens. Donc, je considère que je suis dans une défensive logique et que je ne fais pas partie de ces écrivains pleurnichards qui passent leur temps à se lamenter sur leur enfance malheureuse, ce genre de choses. Moi, j'aime la contre-offensive, la contre-attaque. Donc
vous êtes un guerrier, je le disais tout à l'heure.
Oui, écoutez, je ne sais pas, j'essaie d'être un vélite du verbe, on va dire, pour employer une métaphore militaire. Voilà.
Et alors, pour parler du verbe, je serais curieuse de savoir qui vous nous recommandez dans vos contemporains, un livre à découvrir chez nos contemporains.
Écoutez, il y a un livre extraordinaire, il va paraître le 26 septembre seulement, mais oui. Vous pouvez noter dès à présent son auteur. Le titre de ce livre, c'est « Tout autre, une confession », et l'auteur s'appelle François Méronis. Ça s'écrit M-E-Y-R-O-N-I-S. Il y a déjà un blog qui est consacré à son livre. On va beaucoup en parler. Il va y avoir des couvertures de magazines autour de ce livre. C'est un homme qui est lui aussi très solitaire, oui. Et qui, depuis son enfance, il va raconter ça dans ce livre, tout autre, qui va raconter comment il se sent dissocié de l'humanité et comment ça va être une sorte de handicap, de défaillance qui l'accompagne depuis sa naissance, et comment il va tenter de retrouver par la pensée et par la littérature son souffle et sa puissance. Il cite au début du livre, au tout début, ça commence par une phrase de Marilyn Monroe, qui est une vraie phrase de Marilyn Monroe, qui est splendide, et qui dit, Marilyn Monroe, c'est comme si je ne faisais plus partie de l'humanité. Voilà, c'est comme ça que commence ce livre de François Méronis, tout autre. On peut aller regarder sur Internet, c'est sur blogspot.fr. Il y a un site qui lui est déjà consacré.
Je vous engage immédiatement comme attaché de presse.
C'est un très bon ami à moi que j'aime beaucoup.
Alors, puisqu'on est en train de justement.
C'est parce que c'est un excellent écrivain que c'est un très bon ami à moi et non l'inverse.
Poursuivons vers la connaissance de l'auteur,
oui.
Zagdonski.
Revenons à l'auteur.
Et pour ça, vous nous avez, je crois, Eva Bester et les auditeurs qui vous suivaient l'année dernière et que vous fascinez doivent s'en souvenir, construit une sorte de questionnaire. Qu'il est peut-être nécessaire de signaler par un petit bruit.
Non, pas tout de suite.
Si.
Non, Alexandre. Je dois d'abord remettre en contexte, parce que notre invité va être terrifié. Donc, Stéphane Zagdonski, oubliez tout ce dont on vient de parler. C'est le moment du questionnaire en apparence absurde, mais très révélateur, qui clôt notre entretien. Stéphane Zagdonski, il vous reste 7 heures à vivre et vous êtes coincé dans un supermarché. Que faites-vous ?
Dans un supermarché ?
Oui.
Je peux pas m'enfuir du supermarché.
Non, bah arrêtez là. Oui, c'est du tac au tac. Allez, on est un guerrier.
On est un guerrier dans un supermarché. J'achète une bouteille d'eau et je la bois. Voilà.
Ça sert
un, un peu de pureté dans le supermarché.
Un peu de pureté. Deuxième question. Si votre chat...
De l'eau bio.
Bio. Si votre chat, et ne me dites pas, je n'ai pas de chat, allez voir un psy pour parler de vous, de quoi se plaindrait-il?
De mes griffes.
Oh. Si vous n'étiez condamné qu'à parler d'un seul et unique sujet jusqu'à votre mort, lequel serait-il?
L'infini.
L'infini?
Ah oui.
Oh, j'aime cette exquise simplicité. Si vous étiez quelqu'un d'autre, vous feriez-vous la cour?
Non.
Non?
Non, parce que je ne me considère pas comme quelqu'un qui a besoin de valets ou d'esclaves ou de courtisans. Et je ne suis pas moi-même un courtisan.
Et vous ne vous séduisez pas?
À la cour au sens amoureux?
Oui.
Non, je ne me ferai pas la cour. Non.
Très bien. Avec quoi puis-je vous acheter?
Avec quoi je ne me ferai pas la cour?
Non, avec quoi puis-je vous acheter, moi?
Avec un sourire, mais c'est gratuit, c'est gracieux.
Dernière question. Que conseillez-vous pour se guérir du désespoir?
Écoutez, je vais vous citer une phrase de Kafka, qui est très belle, que j'aime beaucoup. Kafka disait dans son journal « Le désespoir est mon affaire ». Et donc, il s'y connaissait en désespoir. Et il a une phrase très belle, une autre phrase du journal, qui d'une certaine manière est la réponse au désespoir, où il dit, si vous me laissez la retrouver...
Je vous laisse, mais je pense que sur le désespoir, on est plusieurs sur le coup.
« Oh, heure merveilleuse !» C'est de Kafka. Et vous voyez, là, ce n'est pas le Kafka qu'on connaît. « Le désespoir est mon affaire », là, c'est le Kafka qu'on croit connaître.
D'accord.
Mais voici ce que dit aussi Kafka dans son journal. « Oh, heure merveilleuse, sérénité parfaite, jardin sauvage, tu tournes le coin de la maison et dans l'allée, la déesse du bonheur se hâte à ta rencontre. »
Bravo. Alors. Et ma question à moi, DSK, était-il un bon coup?
Alexandre.
Il faudrait demander à Nafissa Toudialo, mais apparemment non.
Littéraire, j'entends.
Non plus, c'était pas... Non, parce que le très mauvais
coup... Vous exagérez, là. Vous avez conscience quand même qu'on ne parle que de vous.
C'est vous qui exagérez, Alexandre.
Grâce à lui.
On parle beaucoup de DSK, et c'était un très mauvais coup qu'il a fait à la planète entière, parce que d'une certaine manière, il a dévoilé le poteau rose.
Je rappelle le titre du livre, « Chaos brûlant » de Stéphane Zagdanski, c'est au seuil.